Campus Lille, 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que dans les aventures qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est la
crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mètre.
Là, on le mettre.
On ne connaît pas tout de gauche, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation de l'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tout fallait le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UGP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues femmes oranges, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela ?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, laissez-moi tomber en panne de poste. J'ai dit tant que vous ne prenez pas. 100 fois, j'ai dit. Jamais.
Aujourd'hui, mercredi 29 juin, c'est la Saint-Gouvernement d'Union Nationale. Saint-Gouvernement d'Union Nationale est le saint patron de toutes celles et ceux qui ne peuvent accepter que la France soit bloquée par un petit groupe d'islamo-gauchistes poutiniens. Et il y a eu la France de Dunkerque à Tamanrasset, il y a eu l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il y a désormais, canonisé dans l'urgence, 5 gouvernements d'Union Nationale, du PCF aux Républicains. C'est ainsi qu'Aurore Berger a pu entrevoir, comme Bernadette du fond de sa grotte jadis, le miracle d'une France réconciliée autour du consensus. C'est que l'heure est grave. Pas vrai, Manu ?
Je veux être toujours vrai. Je ne peux rien faire pour vous sans vous. Nul ne saurait sauver une nation inerte ou rétive. Seule l'adhésion du pays peut faire d'une politique sensée une politique féconde. Je sais l'effort que certains d'entre vous doivent faire pour admettre cette politique.
Peut-on attendre plus longtemps encore le redressement national face à la menace que le front oriental fait peser sur notre civilisation et nos valeurs? Il est urgent que notre pays puisse se réformer rapidement. La guerre est à nos portes. La guerre est à nos portes et l'heure est grave. Pas vrai, Bolloré?
Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale,
Si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous.
L'ennemi qui refuse la retraite à 65 ans et la compétitivité de nos entreprises, cet ennemi est connu de tous. C'est face à lui que cinq gouvernements d'union nationale doivent se dresser, avec sa borne en figure de proue, au nom de la République et de tout ce qui s'ensuit. Car l'heure est grave. Pas vrai, Charlie ?
J'ai cité Jean-Luc Mélenchon, j'ai cité Alexis Corbière, Raquel Garrigaud et d'autres. Enfin, ils sont à l'unisson sur ce thème, sur cette espèce de complaisance à l'égard de l'islamisme, de l'antisémitisme. Il y en a un qui se démarque quand même, c'est le candidat communiste. Oui. Fabien Roussel est tout à fait, à cet égard, est tout à fait intéressé.
Il faut sauver le soldat Macron. Tel est le titre du tout nouveau film produit par la bourgeoisie française, une espèce de remake de la 7e compagnie, dont l'aspect comique est très étroitement lié à la gravité de la situation. Ah bah oui, car l'heure est grave. Ah oui, l'heure est grave. Pas vrai, Pithiviers ?
Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité et j'en prends acte. Cela ne doit pas vouloir dire l'immobilisme. Cela doit signifier des accords en prenant le temps de les faire par le dialogue, le respect, l'exigence.
Aujourd'hui, mercredi 29 juin 2022, le soleil s'est levé au milieu des années-lumière et du rougeoiement des planètes. Il va se coucher sur cette fausse étoile perdue dans l'univers et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche, un peu, de Radio Campus et sur campusville.com, beaucoup. Ce soir, nous reproduisons de larges extraits d'une conférence organisée par l'association Indecosa CGT, c'était à la Bourse du Travail le 22 juin dernier. C'était sur les questions de l'énergie, question d'une actualité bien évidemment tout à fait brûlante. Vous y retrouverez notre camarade Gilles Balbastre, mais également un député du PTB, Yori Dupont, et bien d'autres intervenants. Il me semble bien que c'est l'heure de mettre. Ouais, et l'heure est grave.
Le chef d'art tient le pétard.
Le petit vient en fait tourner pendant que ça prépare le sien.
Radio Campus.
Quoi, la CGT?
Oui.
Tu sais ce que c'est la CGT?
Non, qu'est-ce que c'est la CGT?
Qu'est-ce que c'est la CGT?
106,6.
Bonjour et bienvenue à la Bourse du Travail. On va démarrer cette matinée, cette conférence débat, ce moment d'échange sur l'énergie. Je voulais simplement quand même vous dire, si vous ne le saviez pas encore, quels sont les intervenants. Il n'y a pas d'intervenants, non, c'est vraiment que des hommes qu'on a aujourd'hui, que vous avez devant vous. Alors je commence par Thierry Lacheret, qui est donc le plus loin de moi. Là, voilà, c'est lui avec les lunettes et sa chemise blanche, qui est donc de Enedis. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Yuri Dupont, qui est du Parti du Travail belge, et qui est député, je crois, hein. Yuri Dupont. Vous avez aussi juste à côté, donc je continue dans cet ordre-là, Gilles Balbastre, qui est un réalisateur, entre autres choses, réalisateur de films de critique sociale, et qui a notamment réalisé 3 films dont on verra des extraits qui vont ponctuer cette matinée. Ensuite, nous avons avec nous Alex Kikos, qui est lui de la SNCF. CGT Cheminot aussi, bien entendu. Et puis Pascal Blindal, qui lui est le secrétaire revendicatif à l'Union départementale de la CGT. Voilà. Maintenant, c'est à vous qu'on va donner la parole, à vous le public qui avait bien voulu vous déplacer ce matin. Puisque, avant de rentrer dans le dur de ce moment, on voudrait savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu. On voudrait savoir, par exemple, s'il y a des gens parmi vous qui sont des travailleurs de l'énergie. On voudrait aussi savoir si, éventuellement, il y en a parmi vous qui sont des spécialistes de cette question, ou bien des journalistes, peut-être. On pense aussi à vous en se disant que peut-être certains d'entre vous renoncent à l'énergie à certains moments. C'est le cas par exemple dans ce quartier où on est, à Fives, où Ali et moi avons pu travailler quelques années, et on sait qu'il y a une partie de la population qui, par exemple, comme 6% de la population française, renonce à maintenir le logement à bonne température, en hiver en particulier. Qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu, et quelles sont les questions que vous vous posez? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Est-ce que quelqu'un voudrait nous offrir une petite intervention là, orale, pour savoir un peu qu'est-ce que vous attendez de ce moment, de façon à ce que les intervenants qui sont là sachent mieux, plus justement et plus précisément intervenir et vous parler en fonction de qui vous êtes vraiment et de ce que vous attendez.
Bonjour à tous. Donc moi c'est Corinne Tevin, je suis DS de chez Relais Colis. Donc on travaille dans le transport national. Et en fait on parle beaucoup des camions, forcément, de la pollution et du dernier kilomètre. Alors j'étais à la Fédération il n'y a pas longtemps, où on parlait du dernier kilomètre, où on parle de livrer en vélo, véhicules électriques, tout ça c'est pas encore vraiment bien au point. Alors nous, on a des SMIC 20 mètres cubes qui vont en ville livrer les relais. En vélo, ça ne va pas être possible, quoi. Donc vraiment, là, il y a beaucoup de questions à se poser sur l'avenir du transport national pour l'instant, mais international aussi. Donc voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose au niveau du transport, quoi.
Ouais, alors moi, je suis Jean-Paul Verdière, donc secrétaire général de l'Union locale CGT de Seclin. Ce que j'attends ici, c'est de savoir comment on peut justement revenir à un secteur public dans l'énergie. Je parle de l'énergie de l'énergie. Et ensuite, sur la question que tu posais, est-ce que l'hiver on baisse? Pas forcément. On est retraité, on est plus souvent chez nous. Enfin, pas pour moi, je parle pas pour moi, je suis Jean-Michel. C'est les plus modestes qui chauffent le plus, c'est une évidence. Si on n'est pas là, si on va travailler, on peut baisser un peu, on reste là chez soi, on chauffe, on vieillit, on a plus froid. Donc voilà, ça c'est un coup. Je pars sur les batteries électriques. Alors là, j'ai un gros souci. On m'a offert un vélo à assistance électrique. Formidable ce truc, hein. Je vous le dis, ça permet de moins être fatigué, sauf que la batterie elle est foutue. 750 euros. 750 euros, une petite batterie électrique. Voilà, alors après, le coût pour les voitures, moi j'ai un voisin qui a les moyens, il y a une Audi, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est une Audi toute électrique, qui, un gros bazar, la grosse bagnole. Je me pose des questions, combien ça peut coûter quand même les recharges électriques, quoi. Parce que c'est ça le souci, on veut faire des économies et on charge de plus en plus. Voilà, plusieurs questions là-dessus, mais je reviendrai après peut-être.
Oui, bonjour, moi c'est Christelle Vigny, je suis secrétaire générale de l'ULCGT de Dunkerque. Moi je viens d'une collectivité territoriale, hein, donc la privatisation des services publics, nous on est aussi concernés dans nos collectivités, on est en train de tout foutre en l'air, basculer beaucoup de services vers le privé. Le problème de l'énergie, effectivement, c'est un problème que je pense très préoccupant, et surtout aujourd'hui quand on voit qu'effectivement l'énergie, l'augmentation du coût de l'énergie repose sur pas mal de ménages. Moi cet hiver, moi je vous avoue que j'ai dû baisser quand j'ai vu que les factures continuaient à augmenter, que ça allait continuer à augmenter, on est obligé de réduire sa consommation parce qu'on s'en sort de moins en moins. Nous, les difficultés qu'on a par rapport effectivement à toute cette question de l'énergie, de la privatisation, nos services, EDF, nos centrales, enfin, on a du mal quand même à sensibiliser, à mobiliser les camarades sur ces sujets-là, en dehors de ceux qui travaillent. C'est notre grosse difficulté, et c'est comment enfin, trouver les bons arguments pour les sensibiliser là-dessus. On est sur des enjeux énormes de société, d'avenir. Et on est face aussi, confronté aussi à des politiques, malheureusement. Hein, je parle de ceux qui, malheureusement, aujourd'hui, ont le pouvoir, parce que les gens n'ont pas compris, ils n'ont toujours pas compris, et puis ils sont bons dans les extrêmes. Enfin bref, on n'a pas les politiques qui portent ces enjeux-là, ou très peu. Nous, on l'a vu avec le travail qu'on a fait sur la fermeture de la raffinerie des Flandres en 2010 Total, qui a fermé une des plus grosses raffineries de France, où les camarades de l'STGT sont porteurs depuis plus de 10 ans de reconvertir le site en production et d'hydrogène. Les camarades ont fait un travail formidable et continuent à se battre là-dessus, et malheureusement on a très peu de relais politiques là-dessus, alors qu'on voit que ça, dans certains pays, tout ça, ça se développe énormément. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres camarades qui ont du mal à s'en saisir, peut-être parce qu'ils comprennent pas tout. C'est compliqué, après c'est technique, et ils sont pas forcément conscients des enjeux derrière. Donc on est en difficulté aussi, nous, pour porter nos projets à la CGT, et puis de discuter cette question de l'énergie et des enjeux derrière, et puis enfin que c'est pour les puissants, les multimilliardaires et tout, pour eux, c'est une arme puissante, et puis c'est un peu peut-être qu'on peut te faire, quoi. Mais à nous, effectivement, trouver les bons arguments, organiser ce genre de débat, c'est très important, mais on regrette toujours le manque de participation de nos militants, et c'est bien dommage. Enfin, bon, voilà, c'est ma première intervention, on verra après.
Donc David Urblin, secrétaire de l'Union locale CGT de Fourmies. Donc moi je suis bouché, vous voyez, je suis pas du tout, je ne travaille pas du tout dans l'énergie, mais néanmoins, nous savons qu'il y a 12 millions de personnes cette année qui ont eu froid cet hiver, qu'on a 8 millions de personnes qui ont dépendu de la banque alimentaire. Voilà, je dis tout ça parce que tout est lié en fait. On sait que par exemple un appartement, maintenant quand vous êtes salarié, c'est à peu près 30% de vos revenus. 30% de vos revenus, donc automatiquement vous devez payer votre électricité, vous devez payer votre gaz, et on sait très bien que si vous ne le payez pas, ben, c'est la coupure, ou alors on vous met très peu, puisque la coupure est interdite, mais bon, on vous met très peu. Néanmoins, la première chose que vous faites, c'est vous tirez sur la bouffe. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est sur un an, 57% d'augmentation sur le gaz. Alors c'est énorme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour tous les ménages. Qu'est-ce qui prévaut que ça vaut autant, en sachant que
Par exemple, Total, l'année dernière, a fait 15 milliards d'euros de bénéfices. C'est historique. Hein, c'est une de CAC 40 qui a eu le plus gros bénéfice sur une année. Et je pense qu'ils vont battre des records encore cette année-ci, puisque sur 5 mois d'exercice, ils sont à 9 milliards d'euros de bénéfices. Et pendant cette période, les travailleurs qui parfois restent dans des appartements qui sont des passoires énergétiques, fait en fait que ces gens-là, comme je vous l'ai dit dès le début de mon intervention, les 12 millions de personnes qui ont eu froid cet hiver, et la réponse du gouvernement, c'était pour certains, c'était de dire il fallait baisser d'un degré et demi. Alors déjà qu'ils n'étaient pas chauffés très très fort, parce que quand vous chauffez à 19 degrés dans une maison, en moyenne sur un appartement qui fait 70 mètres carrés, ça vous coûte environ hein, sur l'année plus de 1 500 euros, à 19 degrés. Si en plus il faut encore baisser, en 19 degrés c'est pas encore très très chaud non plus, hein. Faut pas croire, tout à l'heure le copain le disait, il y a des retraités qui sortent moins, et d'autant plus l'hiver, nous on reste quand même dans le nord, on a quand même des journées où ils sont assez froides, forcément 19 degrés c'est pas très chaud, s'il faut encore baisser, c'est une question primordiale pour l'ensemble des travailleurs et des gens, et des retraités d'ailleurs, hein, et des gens qui restent chez eux et qui ont froid. Donc voilà, c'est vraiment une catastrophe. Moi je pense qu'il faut revenir sur un service public, 100% service public, parce qu'on l'a vu, hein, l'électricité en France est une des électricités en production qui est la moins chère, et au dictat de l'Europe, on a pris le prix le plus haut de production, de coût de production en Europe pour baser le tarif réglementaire pour toute l'Europe. Alors que nous, en France, elle est moins chère que dans les secteurs, ben, des pays comme la Scandinavie, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait que les travailleurs sont en grande, grande difficulté.
Oui, bonjour, Joseph de Melenester, co-secrétaire du syndicat CGT des agents du Conseil régional. Juste un mot pour compléter ce que vient de dire le camarade de Fourmi. Aujourd'hui, de plus en plus, les salariés avec qui on travaille nous disent ben le salaire aujourd'hui sert juste à payer les factures. Et effectivement, depuis que les entreprises de l'énergie ont été privatisées, commencent à être dépecées, on a bien senti la hausse des factures. Face à ça, d'une part, on ne nous parle jamais de salaire, mais de chèque énergie, de prime énergie pour compenser. Moi, la question que je voudrais poser, c'est comment on fait par rapport à l'exigence d'un blocage immédiat des prix et des tarifs de l'énergie. Comment on le défend, ça ?
Encore une petite question, j'ai oublié tout à l'heure. Les copains parlent de coupure au cas où on ne paye pas. Je sais que les camarades de l'énergie se battent pour éviter toutes ces coupures avec les risques qu'ils prennent dans leur métier. J'ai une question à poser sur le compteur liquide, parce qu'on n'en parle pas. À l'heure actuelle, c'est devenu à la mode. Hein. Moi, je pense que c'est un truc. Il y en a encore qui se battent, mais c'est devenu à la mode. Les maires donnent leur autorisation pour faire. Et je pense que ce compteur, ils appellent ça le compteur intelligent. Mais c'est aussi vrai. Parce que, est-ce que, à distance, ils ne pourront pas couper si on ne paye pas ? Première question. Est-ce qu'ils ne pourront pas baisser si on consomme de trop ? C'est une question que je me pose et que beaucoup de personnes se posent d'ailleurs.
Oui, bonjour à tous. Moi, je vais un petit peu apporter un discours un peu différent de ce qu'on vient. Je suis délégué syndical de la société ArcelorMittal Dunkerque. Donc, moi, je vais apporter un discours un petit peu différent de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Parce que nous, notre problématique sur notre site, c'est la transition énergétique. Parce que d'ici 2030, notre société veut décarboner à hauteur de 33% notre site. Et le problème, c'est qu'on va avoir besoin de 3 fois plus d'électricité. Pour résumer, on va avoir besoin d'une tranche de production de la centrale nucléaire de Gravelines. Donc c'est énorme. Donc là, on est en train de discuter des projets, tout ça, qui vont être à hauteur de 1,7 milliard d'euros pour le site de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. Et nous, notre gros doute, notre doute qu'on a chez nous à la CGT sur les sites d'ArcelorMittal, c'est est-ce qu'on aura les capacités industrielles, énergétiques pour pouvoir alimenter notre site en électricité. Et ça, c'est un gros point, une grosse interrogation, parce que c'est bien beau, on dit qu'il faut décarboner, il faut passer à tout l'électrique, les voitures, tout, mais quand on voit la consommation qu'on aura besoin pour 2030, est-ce qu'on est capable de le faire? Parce que rien que pour notre projet de 2030, il va falloir créer une nouvelle ligne haute tension entre la centrale nucléaire de Gravelines et de notre site de Dunkerque. Et rien qu'au moment où on dépose le projet, entre le moment où on dépose le projet et le moment où peut-être cette ligne va être réalisée, il faut 5 ans. Est-ce que l'opinion publique va accepter une nouvelle ligne haute tension qui va traverser le territoire dunkerquois entre la centrale nucléaire de Gravelines et notre site de Dunkerque? Donc, nous, notre interrogation, c'est est-ce qu'on est en capacité industrielle de passer à tout électrique ou partiellement électrique? Voilà.
Une question, c'était quoi l'énergie que vous consommiez pour pouvoir jusqu'à présent?
Alors, la majorité, c'était du charbon, énormément, et du gaz. Et là, les projets, c'est de passer à l'hydrogène, mais avec une période transitoire qui serait au gaz. Et mais le problème, c'est pour l'hydrogène, il faut de l'électricité. Donc voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on sera capable, industriellement, de fournir nos entreprises qui sont et qui ont des projets de décarbonation.
Tu habites rue de la Madone, une maison qui se dérange, une maison qui se tire-bouchonne et qui pleure à grosses planches. L'escalier collimaçonne, c'est pas grand, non, oh non, mais y a de la place. Tu habites rue de la Madone. Et moi, je viens pour le gaz. Tu as un boudoir plein bouddha, les bougies dansent dans leur bougeoir. Ça sent bon, c'est sans histoire, ça ruisselle de ta. C'est rempli de photos de toi qui sommeillent devant la glace. Tu as un boudoir plein de bouddha. Et moi, je viens pour le gaz. Tu as un vrai divan de roi, un vrai divan de diva. Du porto que tu rapportas de la porte des lilas. T'as un petit chien et un grand chat, un phono qui joue du jazz. Tu as un vrai divan de roi. Et moi, je viens pour le gaz. Tu as des seins comme des soleils, comme des fruits, comme des reposoirs. Tu as des seins comme des miroirs, comme des fruits, comme du miel. Tu les recouvres, tout devient noir. Tu les découvres et je deviens Pégase. Tu as des seins comme des trottoirs. Et moi, je viens pour le gaz. Et chez toi, il y a le plombier, il y a le bedeau, et il y a le facteur, le docteur qui fait le café, le notaire qui sert les liqueurs. Il y a la moitié d'un artilleur, il y a un poète de Carpentras, il y a quelques flics, oui, et puis la main de ma soeur. Et tout ça est là pour le gaz. Allez-y donc tous, rue de la Madone, c'est pas grand, non, mais il y a de la place. Allez-y donc tous, rue de la Madone, et dites bien que c'est pour le gaz.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Bonjour, donc moi je suis Gilles Balbin, je suis réalisateur de documentaires. Je voulais juste intervenir par rapport à des propos qui ont été tenus en termes de « on aimerait que plus de camarades soient là, que cette question essentielle soit mieux posée ». Alors, je voudrais répondre, j'ai fait un film qui s'appelait « Les nouveaux chiens de garde » et qui posait comment les médias étaient accaparés par une minorité et comment elle occultait tout débat. Ça c'est important, ce qui s'est passé avec les camarades de la CGT cheminots ou de la CGT énergie qui m'ont commandé en 4-5 ans 4 films hein, deux avec les cheminots vérité mensonge sur SNCF, ça c'était sur le transport de passagers, un autre sur le fret ferroviaire changeant d'air, transport marchandises changeant d'air, et avec les camarades de énergie main basse sur l'énergie, c'était sur l'électricité et gaz et flouze à tous les étages sur le gaz. Ces films ont été faits à partir de cette réflexion. Si aujourd'hui, ce matin, on est déjà une belle petite chambrée, mais si on n'est pas assez, ce n'est pas un hasard. Les camarades qui sont détournés de ces questions essentielles pour leur quotidien. Regardez, il y a eu une journée d'action sur la santé. Il y avait quasiment personne dans la rue. Certes, ça posait la question des salariés, mais ça posait la question des usagers. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a plus d'urgence ou d'hôpital? Et ils nous ont fait, ces putains de médias, applaudir et taper dans des casseroles au début de la pandémie. Mais c'est même, moi dans ma rue, il y en avait plein, et avec ma femme, on était un peu en colère en disant « on vous attend quand il faudra manifester ». Et là, on ne les a pas vus. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir de la colère envers ceux qui ne viennent pas, qui sont de plus en plus majoritaires, mais poser une question, moi je pense, essentielle, c'est parce que je suis journaliste aussi peut-être, c'est cette question de l'information. Je pense que si l'information, si les 20 heures de TF1 ou France 2, qui sont encore majoritaires, hein, les réseaux sociaux, on parle de BFM et CNews, c'est encore 15 à 17 millions de gens qui tous les soirs regardent ces deux journaux télévisés. S'ils ouvraient, s'ils commençaient avec des problématiques essentielles dont on a parlé dans les films qu'on a fait, c'est la raison qui commencerait à être touchée par l'émotion. Là, on nous bassine à juste titre, mais pas à juste titre, sur le réchauffement avec la canicule qui arrive, 5 jours, certes ça augmente, mais ce que je voulais dire, c'est que le propre, et ça c'est hyper important, de l'information, c'est d'être parti maintenant sur des informations anxiogènes qui font peur et qui nous paralysent. Le Covid, le terrorisme, le réchauffement, la guerre, que des informations qui nous terrorisent, qui s'adressent à l'émotion ou fais-moi peur et pas à la raison.
Et tu mets le compteur Linky dans cette liste?
Et là je vais le mettre, bien sûr. Et effectivement, oui, ça se réchauffe, mais vous avez vu, c'est la litanie de ça se réchauffe. C'est pas les raisons profondes pour lesquelles ça se réchauffe. Et là c'est la raison qui fonctionnerait et donc des solutions. Parce qu'il y a des solutions, et on va voir aujourd'hui avec l'électricité, mais il y a des solutions avec aussi le transport. Dans tout ce qu'on nous bassine, on ne parle jamais, il y a une camarade là qui parlait du transport, mais on ne parle jamais des, et tu en as parlé tout à l'heure, des dizaines de milliers de camions qui sont sur les autoroutes et qui participent à cette pollution. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas des camions, il faudrait qu'il y ait des camions autrement, bien entendu. Pareil pour le gaz de schiste, ce sont des bateaux qui vont transporter le gaz de schiste et qui vont aussi participer à cette pollution. Donc la raison permettrait de trouver des solutions beaucoup plus facilement. La peur et l'anxiété nous amènent à ne pas avoir de solution et à nous diriger ou à diriger vers des solutions extrêmes. Vous avez vu qui sont les solutions extrêmes, à l'extrême droite, entre autres, sur des solutions de peur. Ça, c'était un préambule pour moi qui est très important. Ce qui veut dire aussi, dans le style des espoirs, il faut continuer à se battre sur cette bagarre de l'information. Je disais au directeur de cabinet de Quatennens, là, j'espère que si vous aviez dimanche une majorité, une des premières mesures de Mélenchon, c'est nationaliser TF1. Nationaliser TF1. Il faut réclamer ce genre de choses. Pour symboliquement faire hurler les chiens de garde, ah, je peux vous dire que là, ils hurleraient, hein, comme quoi on est des staliniens, etc. Mais oui, on est des staliniens déjà. Moi, je dis à mon bureau de vote à Moulins, 76% pour Quatennens. Et hier, je faisais peur aux gens de l'ensemble en disant, on a obligé, nous, dans notre rue, aux gens à voter Quatennens. Et on espérait faire 99 comme à Cuba et comme en Corée du Nord. Rien que pour les faire chier, leur faire peur. Mais en plus, ils ont peur, autant
encore carrément. Je pense qu'il y a des mesures comme ça, des choses qu'il va falloir pousser en termes de communication. C'est hyper important. Je remercie les camarades cheminots. Hein. Un film, ça coûte de l'argent. Mais on a été, et actuellement, du reste, Gaz et Flouze et même Basse sert énormément. Le film a été fait à 3 ans et sert. Et ça, c'est important parce que j'ai des camarades qui me téléphonent parce qu'ils tournent et ça continue à faire de la contre-information. Juste Linky, hein. Camarade Linky, en deux mots. Linky, bon, il y a tout un côté un peu écolo, de peur des ondes, etc. Bon, là, on va l'oublier un tout petit peu, parce que bien sûr, il y a peut-être des ondes, bien sûr, il y a peut-être des conséquences, mais hey, quand on dort avec ça, ou qu'on dit on a peur des ondes tout en téléphonant avec son portable, faut savoir raison garder. On va oublier celui-là. Non, Linky, t'as raison, c'est un compteur intelligent. Ça veut dire tout simplement, là, on est dans des problèmes, et Thierry le confirmera, on est dans des problèmes de production. De plus en plus, on a des sous-productions d'énergie avec des conséquences qui peuvent être difficiles, dures, c'est le blackout. Et le blackout, c'est terrible, ça serait terrible en termes de conséquences, c'est-à-dire le noir complet. Hein, des difficultés à équilibrer l'offre et la demande avec des noirs complets, dont des conséquences sociales, de mort, etc. Économie terrible. Donc Linky, ça va servir à quoi entre autres? Peu à peu, quand tout va être libéralisé. Là, il y a encore des prix... des prix plafonds hein, qui vont bientôt sauter, mais face à ces problématiques de production, eh ben, le matin, le soir, et ça se passe déjà comme ça, quand il y a des vrais problèmes de production, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on demande aux électro-intensifs, notamment à Union Dunkerque, etc., hop, de diminuer actuellement. Mais eux, ils ont des contrats. S'ils diminuent ou s'ils coupent, eh ben, on les paye. Et on les paye bien. Nous, on ne paiera pas. Ça veut dire qu'il y aura des propositions, effectivement. Le matin, c'est risqué. Eh ben, l'énergie, si vous la voulez, elle sera à tel prix. Autrement, eh ben, vous n'en aurez pas. Donc, de soi-même, on diminuera parce qu'on ne pourra pas le payer. Ça sera 3 ou 4, 5 fois plus cher. Et pour les maris qui sont sympas avec leurs femmes, eh ben, le matin, dans la chambre, le mari viendra en disant « Qu'est-ce que tu préfères, chérie, ce matin, une tartine grillée ou un café ?» Parce qu'on ne pourra pas faire les deux. Voilà. Et ça, c'est ceux qui peuvent se faire au moins le café ou la tartine grillée, parce qu'il y a l'État qui ne pourront même pas faire la tartine grillée, le café et le chauffage. Donc Linky, ça va servir à ça, c'est à réguler, au fond, cette difficulté de production, qu'on ne sait pas très bien actuellement comment arriver, entre autres, hein, pour pouvoir peut-être aussi, effectivement, faire diminuer une production, et en tout cas, moduler les prix. De plus en plus, on pourra moduler les prix. Alors que Linky, à l'origine, ça peut être un compteur intelligent, ça pourrait être très bien. Pour comprendre sa consommation, dans une société, je dirais, un peu démocratique, ça pourrait servir, effectivement, à ne pas être des gamins capricieux comme on l'a été. Moi, je suis 58, je sais ce que ça veut dire. Hein. Nous, on a consommé... Bon, mes gamins, ils me disent, arrête de mettre de l'eau qui coule quand tu te brosses les dents, tant que... C'est une petite connerie, mais on a été des gamins un peu gâtés. Donc, on pourrait effectivement réguler, faire attention, etc. Linky, ça pourrait peut-être servir à ça. Le camarade Thierry va compléter.
Ok, boomer.
Ouais,
oui, Thierry Lacheret d'Enedis. Alors, Linky, c'est un enjeu important?
Alors, oui, le compteur Linky, c'est un enjeu important pour les distributeurs, parce que c'est un bon outil. Pour le distributeur d'électricité qui peut mesurer de manière très précise la consommation des clients, des usagers. Alors, on ne sait pas si vous faites fonctionner votre cafetière ou votre lave-linge, hein. Tout ça c'est de la mythologie, hein. Enfin, faut redescendre, hein. Il n'y a pas de caméra non plus dans les Linky, faut se détendre. Et les ondes, oui, comme tout appareil électronique, hein, Gilles le disait, c'est pas pire que d'avoir du wifi chez soi, quoi. Donc faut vraiment qu'on redescende avec ces choses-là. Le Linky, c'est un outil qui permet donc de faire de la mesure sur le réseau et de la tarification. Mais c'est comme le nucléaire, hein, avec de l'uranium, on peut faire de l'électricité ou on peut faire des bombes. Et Linky, c'est un petit peu pareil. Soit on se sert de cet outil comme un outil qui va permettre d'équilibrer le réseau, en tout cas de mesurer les pointes de consommation. Mais ce qui est pervers derrière, c'est qu'on va permettre, peut-être le camarade du PTB belge va nous en dira deux mots sur ce qui se passe en Belgique, mais en tout cas ça va permettre la naissance de certaines entreprises qui vont vous vendre de l'effacement. Aujourd'hui, vous avez des fournisseurs d'électricité, donc entre autres EDF, hein, le fournisseur historique, Engie qui vous fournit du gaz et de l'électricité aussi. Vous avez Eni, enfin voilà, vous avez plein de fournisseurs. Vous avez un choix considérable de fournisseurs et vont venir émerger des fournisseurs d'effacement, c'est-à-dire qu'on va vous permettre d'avoir de l'électricité beaucoup moins chère que les concurrents, hein, qui seraient les fournisseurs classiques ou historiques. Mais par contre, comme Gilles l'évoquait, pendant les heures de pointe, eh bien, il faudra fermer la lumière. Et de toute façon, si vous ne fermez pas la lumière, ça se fermera tout seul. C'est-à-dire que le compteur pourra de lui-même couper ou réduire drastiquement votre capacité à consommer. Je prends un exemple, il est 7h du soir, vous avez le micro-ondes qui tourne ou la plaque électrique qui tourne, il y a un signal qui est envoyé en disant stop, attention, l'équilibre entre la consommation et la production est en train de partir en live, donc on risque le blackout, comme on a connu en Californie dans les années 2000, et bien là le compteur va limiter la puissance qui vous sera autorisée, et donc coupure de courant. Voilà, et vous paierez moins cher l'électricité, ça, voilà. C'est un choix, mais à partir du moment où on n'a plus le choix de payer son électricité, ça devient une contrainte. Donc c'est un petit peu ça. Linky, c'est un bon outil, ça permet d'identifier les problèmes qu'on va avoir sur les réseaux de manière anticipée, mais ça permet aussi ça. Donc c'est entre quelles mains on laisse ces outils. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. La camarade de la santé, de mémoire, c'est de la santé que tu es ou...
Oui.
Territorial. Voilà, elle disait, mais bon sang, mais comment on peut parler de ces questions-là? Ben voilà, il y a Gilles, il y a des documentaires, il y a des outils, il y a des camarades de l'énergie. Je pense que s'il y a besoin d'aller dans des CE de syndicats pour aborder ces questions-là, aborder les questions d'énergie, parce que c'est éminemment complexe, hein. Chacun rentre le soir chez soi, il appuie sur l'interrupteur, pouf, ça marche. Et on n'imagine pas ce qui se passe derrière, enfin, ou en tout cas en amont. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai débat avec des camarades, des militants, pour faire monter le niveau de conscience des uns et des autres sur les questions énergétiques. Parce que l'énergie, on peut en parler pendant des heures. Quoi. Et moi, je vais m'en arrêter là.
Attends,
Gilles,
où
en est le capital? Vous savez, ces sociétés d'effacement dont il parle, donc, qui existent déjà, il y en a un qui s'appelle Paratoglou, qui est devenu 100e fortune française grâce aux éoliennes. Les éoliennes sont privées totalement. Il est rentré dans le top 100 des premières centaines de fortunes. Et bien ce gars-là a liquider ces sociétés éoliennes parce que c'est plus le moment, et maintenant il a une société d'effacement avec Total et est en train de se faire les couilles en or de nouveau. Donc tout est pervers dans ce système. Et ce que dit Thierry, ben, je vous le rajoute, il y a des gars maintenant qui montent des sociétés d'effacement et qui sont en train de devenir des grandes fortunes. Vous imaginez la perversion de tel système, c'est-à-dire de quelque chose où le camarade parle, eh ben, du peuple, des pauvres, des gens qui en chient, il y en a qui se font les couilles en or avec. Et c'est ça, moi, mon boulot. Et ça, peut-être qu'il faut continuer à le montrer à des camarades, parce que des camarades salariés d'Arcelor, tu leur dis des choses comme ça, ils ont leur père et leur mère qui en chient un peu au niveau du chauffage. Si en plus ils savent qu'il y a des gens qui, grâce à ça, font des sociétés qui deviennent des sociétés sur lesquelles ils gagnent énormément de fric. Là, je veux dire, le cynisme, il est poussé à un tel point que c'est quand même des choses qui peuvent aussi révolter peu à peu les gens autour de nous. Et c'est ça aussi qu'il faut pointer. Ce monde-là n'est pas lisse comme ils veulent. Hein. Ce monde est d'une violence sans nom.
pour un peu d'électricité. On hypothèque l'humanité pour quelques heures de kilowatts. On se retrouve à quatre pattes prêts à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants ça peut aller, vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une onze centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour cent millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre.
Radio Campus.
Alors, on passe au rouge ?
Oh, je suis passé à l'orange, monsieur l'agent.
Alors, donnez-lui vos papiers, vous êtes passé au rouge.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus en 6,6.
Je vais juste essayer sur les compteurs intelligents parce que, pour le coup, la problématique, elle se pose la même en Belgique. Hein, donc c'est-à-dire que on est en train de mettre les compteurs intelligents. C'est pas des Linky, mais c'est le même principe. Mais en parallèle, le mois passé, au Parlement wallon, on a changé un décret sur la tarification en permettant la tarification au quart d'heure. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que le compteur intelligent, effectivement, pour plein de bonnes choses, ça peut être très intéressant de voir finalement ma consommation, savoir combien ça me coûte en direct en allant voir ton compteur, mais bah, via une petite application, ça peut être intéressant. La technologie, elle a toujours une double face, quoi, sous capitalisme surtout. Mais donc effectivement, ça pourrait être très, très chouette de pouvoir faire ça. Mais à partir du moment où on ouvre cette boîte de Pandore, moi j'ai dit ouvert une boîte de Pandore, la tarification au quart d'heure, comment est-ce que vous pouvez... même avec le compteur intelligent, comprendre que vous êtes en train de... vous êtes le quart d'heure qui est trois fois le prix du quart d'heure précédent. Et ça va être vraiment ça, donc le principe. Alors il nous dit, ouais, mais ça sera sur base volontaire, ça sera pas obligé. Oui, oui, les contrats fixes, c'était bien aussi. Il n'y a plus aucun contrat fixe qui se fait en Belgique, parce que vu que le prix a tellement augmenté, il n'y a plus personne qui veut proposer de contrat fixe. En Espagne, 50% des contrats sont des contrats dynamiques. Il fonctionne déjà sous ce principe-là. Donc il ne faut pas croire. Donc ils nous disent, ouais, non. Ils ont ouvert une boîte de Pandore, ils l'ouvrent aussi en Belgique, et finalement tu ne vas plus jamais t'y retrouver. Parce que ça veut dire que les deux quarts d'heure de 18h à 18h30, parce que tout le monde est en train de faire sa bouffe, ils vont te mettre le prix hyper chaud, mais tu n'auras pas le choix. Tout le monde rentre du boulot à une telle heure, tout le monde doit aller coucher les gosses à une telle heure, et donc tu n'as pas le choix de cuisiner à ce moment-là. Et tu vas juste te retrouver avec une tarification hyper chère pendant les deux quarts d'heure à ce moment-là. Et donc c'est vraiment une boîte de Pandore qui s'ouvre avec le compteur intelligent dans le but. Vraiment d'avoir un prix qui va être impossible impossible à comprendre. Parce que tu vas pas aller tous les quarts d'heure aller voir. Ah, là c'est bon, c'est le quart d'heure où je peux, quoi. Et ça sera cher pour les pauvres, parce que finalement, bah, c'est ça. Et pour les familles, pour les gens qui ont des enfants, qui ont eu un travail, pour les travailleurs, en fait. Ça, c'est intéressant, parce que les travailleurs, bah, voilà, tu finis ton boulot à 17, 18 heures, tu rentres à la maison, tu dois faire ta bouffe, tu dois coucher les... Tout le monde cuisine au même moment, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Et donc vraiment, en fait, c'est une attaque directe sur les travailleurs.
Merci, Yori Dupont. Alors, quelqu'un le disait dans la salle tout à l'heure, hein, l'énergie, finalement, c'est une arme puissante pour les bourgeois, pour les capitalistes, là, et puis vous, bien sûr, vous confirmez ça. L'énergie est-elle une marchandise comme les autres ? C'est la question qu'on vous pose maintenant. On pourrait peut-être commencer par donner la parole à Thierry Lacheret de Enedis, là, sur le dernier témoignage qu'on vient de voir des films de Gilles Balbastre, et ce monsieur qui prend prend avec le sourire le fait de ne pas maintenir son logement à une température acceptable.
Pas calé,
c'est ça. Enfin, je sais pas si on se rend compte de ce qu'on vient de voir, mais au 21e siècle, alors qu'il y a de l'énergie, hein, voilà, de se rendre compte de ce qu'est la réalité de la précarité énergétique, mais c'est d'une violence. Enfin, faut quand même qu'on redescende sur Terre, quoi. C'est aujourd'hui, de l'électricité, de l'énergie, il y en a. Alors oui, après, il n'y a pas d'énergie miracle qui pollue pas, hein. Enfin, mais quand même, l'électricité, et on en parlait, c'était un peu le sens de certaines interventions. Quand on n'arrive plus à payer ses factures, quand on n'arrive plus à boucler ses fins de mois, on fait des choix, on fait des arbitrages, et comme on n'a pas le choix que d'avoir de l'électricité et du chauffage à la maison, donc avec du pétrole, du bois ou du gaz, enfin, à un moment donné, on se restreint sur l'alimentation, on se restreint sur d'autres postes budgétaires. Sur la précarité énergétique, moi, c'est quand même 550 000 coupures à la grosse par an. 550 000 coupures par an, c'est pas rien, quoi. Et c'est un peu ce qu'on voit là dans le document de Gilles. La réalité sociale, elle est quand même assez violente. Il y a 30% des ménages, donc pour parler de ça, qui se restreignent sur l'usage du chauffage. Donc ça, c'était un sondage qui avait été fait en 2017-2018. Il y a 10% des ménages qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité, enfin d'énergie, électricité, bois, fuel, etc. Enfin, c'est quand même relativement important que dans une société comme la nôtre, on ait 10% de la population qui soit en précarité énergétique, quoi. Faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que les pénuries qui sont organisées artificiellement, comme on peut le voir en Californie, est-ce que les compteurs Linky qui vont permettre à ces gens les plus précaires de s'effacer automatiquement, est-ce que c'est ça la société dont on veut ou pas? Et à dire, est-ce que l'énergie c'est une marchandise comme les autres? Il ne faut pas se poser la question, c'est non, il faut le réaffirmer. Et d'où l'idée d'avoir un contrôle public des services de l'énergie. Qu'on soit dans une entreprise publique ou privée, je vais dire, peu importe. Mais c'est quel contrôle social on donne aux usagers, aux travailleurs, pour avoir la mainmise sur qu'est-ce qu'on fait de l'énergie, comment on la distribue, comment on la vend, et à quel prix on fixe les tarifs. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Aujourd'hui, quand on se fait mettre en service l'électricité à la maison, quand on arrive dans un logement, on paye la mise en service. Alors que ça se fait automatiquement avec le compteur Linky. Il y a juste à cliquer, c'est juste un clic de souris pour activer le compteur à la bonne puissance. Si autrefois on pouvait comprendre qu'il y avait un déplacement d'un véhicule, d'un technicien, un réglage, etc., etc., on pouvait se dire, bon, il y a quand même quelqu'un qui vient, donc j'accepte de payer. Sauf qu'à cette époque-là, la mise en service a été gratuite, quoi. Enfin, si vous vous rappelez, pour les plus anciens, la mise en service du gaz et de l'élec, elle se faisait en même temps avec le même personnel, qui était mixte, électricité et gaz, et aujourd'hui, ça se fait avec un clic de souris à distance, et puis c'est payant. Vive le modernisme, enfin voilà, quoi. Encore une fois, les outils, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on les contrôle. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant à regarder aujourd'hui. Et qu'est-ce que la CGT a à dire en termes de revendications pour développer un service public qui réponde aux besoins des usagers, et notamment des plus précaires? Alors, la position de la CGT, c'est de dire, les mises en service, notamment pour les plus précaires, eh bien, il faut que ce soit gratuit, point.
Les questions de la précarité sont c'est une des questions essentielles. Parce que d'autant plus ici, on a l'impact. Là, il y avait deux morceaux de film. Il y avait celui que j'avais fait en 2005 pour la cinquième, à l'époque où je pouvais travailler encore pour un service public
de l'audiovisuel, ce qui n'a plus été le cas à partir de 2012, quand j'ai fait Nouveau Schengard, j'ai été blacklisté totalement de la télévision. Mais c'est quand même des notions, pas pour mettre en avant, mais si on contrôle à ce point l'information, c'est un des piliers de ce système. Donc ça, c'est important. Le témoignage de ce monsieur au Secours Populaire pris dans le Pas-de-Calais, c'est dans le cadre d'un des films Main Basse sur l'énergie avec les camarades de la CGT Énergie, quand effectivement la CGT a remplacé le service public de l'audiovisuel et est devenu le service public syndical dans lequel j'ai pu m'exprimer. C'est un petit humour, hein, mais effectivement, heureusement que... Et quand j'ai travaillé pour la CGT, les syndicats m'ont beaucoup fait moins chier la CGT que ne me faisait à l'époque chier France Télévisions. Deuxième parenthèse. Ce qui est important autour de la précarité, et ça je pense que c'est essentiel pour vous tous, quand j'ai fait ce film EDF Les Apprentis Sorciers en 2005 pour France 5, je suis allé voir l'ancien PDG historique d'EDF GDF qui s'appelait Marcel Boiteux, qui était un des grands PDG d'après-guerre. Voilà. Et quand je suis allé le voir, il a dit, écoutez, monsieur Balbaz, moi je vais vous dire, je suis un capitaliste libéral. Mais il y a deux secteurs où le marché ne peut pas marcher, et c'est l'histoire qui le met en place. C'est pas une question politique, c'est une question technique. C'est l'énergie et le transport. À l'époque, la SNCF, bien entendu. Parce que ce sont des systèmes de réseau qu'on ne peut résoudre qu'avec un service public. Vous avez vu que la particularité de l'électricité fait que le marché peut jouer avec, et joue avec. Il va avoir tendance à le retenir pour faire monter les prix, etc. La montée du prix du gaz, même actuellement, ou de l'énergie, la montée du prix du blé, est-ce qu'on sait réellement que ça a un rapport avec la guerre de l'Ukraine actuellement? Est-ce que des marchés qui spéculent ne peuvent pas jouer sous des prétextes fallacieux qu'est la guerre? Parce que le blé, il y a eu des stocks, ou il devrait y avoir des stocks. Le gaz, moi j'ai fait un film avec les camarades sur gaz et flouze, GDF avait organisé le pays avec des centres de stockage. Il y avait une douzaine, 14 centres de stockage en France, qui étaient des anciennes mines, souvent de sel, hein, dans lesquelles on stockait le gaz pour justement prévenir. Moi j'avais été pareil voir un des PDG historiques de Gaz de France, qui s'appelait Gasman, c'est rigolo un peu, et qui était le PDG entre 88 et 93, et qui m'a reçu quand j'ai fait le film, il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, si c'est produit par la CGT, j'avais des relations avec la CGT, qui n'étaient pas toujours tendres, mais ils avaient des choses à dire, etc. Et le gars, c'était un diplomate. Je lui dis, mais comment ça se fait que c'est un diplomate qui a la tête de Gaz de France et pas un technicien? Mais il me dit, parce que le gaz, c'était de la diplomatie. Il fallait pendant de longs mois faire des accords pour l'approvisionnement de gaz sur du long terme, parce qu'il n'y avait pas de spéculation. Et donc on négociait pendant de longs mois avec l'Algérie ou avec un autre fournisseur, on fournissait un prix, on remplissait les stocks aussi pour éviter des palliations. Il y avait un marché, une économie qui était organisée autour de ça. Donc c'est important de rappeler ça. Là, actuellement, les stocks devraient être pleins, et s'ils avaient été pleins, la guerre avec l'Ukraine et la Russie n'aurait pas d'impact. Il n'y a pas eu besoin de la guerre avec la Russie pour qu'il y ait 57% d'augmentation des prix, comme le camarade l'a dit depuis le début de l'année. Moi, j'ai eu ma facture de décembre 2021 qui était de 350 euros, celle de décembre 2020 était de 200 euros, alors que la consommation de décembre 2020 était plus importante que celle de décembre 2021. On est dans ces augmentations de prix là. Et ça, c'est pas la guerre de l'Ukraine qui l'a fait. Donc c'est bien des jeux, pareil, des terminaux méthaniers. Les bateaux pleins de gaz arrivent, je suis allé dans des centres de stockage à Fos, sur mer, ils arrivent pour décharger. Et vous voyez tout d'un coup le bateau faire un tour de rond dans l'eau. Parce que avant qu'ils déchargent, ils sont en train de négocier, de voir s'ils ne peuvent pas vendre le gaz plus cher ailleurs, et vous avez le bateau qui repart ailleurs, parce qu'il a été vendu plus cher entre-temps, sur l'eau. Je veux dire, ce système-là, et c'est presque une réponse, hélas, dramatique, c'est pour ça qu'il faut reprendre la main syndicalement et politiquement surtout, c'est que ce système-là ne pourra aller que dans le mur. Et ça, c'est une vérité, c'est ce que me disait Boiteux. On a tout nationalisé et fait que les services publics partout aux États-Unis, en France, partout dans le monde, c'était soit des services publics, des monopoles régulés, c'est-à-dire la production, le transport et la distribution, c'était la même boîte pour éviter des coûts foireux. Au regard de ce qui s'était passé en 1900, 1910, 1920, sur des spéculations qui avaient entraîné des drames, des foufou, augmentation et baisse de prix, ça a déjà été fait, des coupures, des blackouts et des désordres économiques, y compris le marché et les capitalistes, sont le cul entre deux chaises parce qu'ils applaudissent demain face à la dérégulation, mais en même temps, ils voient les conséquences dans les entreprises, dans tant d'entreprises, le camarade n'est plus là, d'Arcelor. Vous voyez donc, c'est un désordre, ce modèle économique-là. C'est un désordre mortifère. C'est pas une réponse totale, mais ça c'est déjà un début. Et Boiteux me disait, tous les États ont fait ça, soit des services publics, soit des délégations de services publics. Hein. Délégation de services publics, c'est comme à Lille, le transport en commun, c'est une délégation de services publics. Alors moi je préfère un service public plutôt qu'une délégation de services publics, parce que le camarade pourra le dire, dans la négociation actuellement qui est en train de se passer, ben, c'est les TER, on va peut-être enlever le service public et laisser des délégations de services publics, mais bon, bonjour les conséquences. Donc voilà, ça c'est quand même un a priori, un premier, ce n'est pas une marchandise comme les autres, c'est pas une marchandise. Donc ce n'est pas viable. Donc tout ce qui se passe et ce que vous vivez, alors je sais bien que c'est quand même compliqué de n'arriver là, mais en amont c'est ça. Donc tous les gens dans le Nord-Pas-de-Calais qui sont privés d'énergie, qui sont obligés de baisser, c'est ça. Alors c'est compliqué hein, d'aller expliquer ça. Mais ça ne peut pas être réglé, et on en arrivera au troisième point, sans que ça soit réglé. Tout le reste, c'est du blabla. Je vous le dis, tout le reste, c'est du blabla. Et c'est une marche en avant vers droit dans le mur. On va se retrouver un jour ou l'autre, comme en 1930-1940, à être obligé de refaire ça. Tellement que les dégâts seront importants. Je vous le dis, et c'est quasiment quelque chose de sûr. On va droit dans le mur. Mais il ne faut pas résoudre la catastrophe par le catastrophisme, ce n'est pas un beau programme. C'est justement à nous, syndicalement, et peut-être aussi à politiquement, de remettre en place ce qui a marché. Vous avez peut-être besoin d'améliorer, mais ce qui a marché et ce qui marchait.
1945, victoire sur l'occupant nazi, la France se reconstruit. Le nouveau gouvernement adopte ses premières mesures. Il reprend le programme du Conseil national de la résistance. Les entreprises ayant collaboré deviennent propriété de l'État. Les travailleurs accéderont à un système de retraite et de sécurité sociale. Les grands moyens de production de l'énergie reviennent à la nation. Électricité et gaz deviennent services publics.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée,
on ne la fait pas au gazier. Jus et gaz à tous les étages, dans les grandes villes ou les villages, pour tous c'est le tarif unique, ça veut dire ça, service public. L'égalité entre usagers, le confort, la sécurité, c'est le cadet de leurs soucis, à ceux qui dirigent le pays.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier.
Le prix du gaz a augmenté, et bientôt il va exploser. C'est pour ça qu'ils veulent la fusion, pour faire grimper les actions.
Pendant ce temps, moins d'entretien
sur les tuyaux, sur les conduites,
accidents et panne et ça revient. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de fuite.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oublié,
on ne la fait pas au gazier. La liberté change de nom, on dit libéralisation. Ils licencient, délocalisent, en nous disant que c'est la crise. À force de nous dégoûter, de tout casser, privatiser, c'est sûr un jour, ça va péter, auront prévenu les gaziers.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oublié, on ne la fait pas au gazier.
Gazier, usage et même combat pour nos enfants et pour nos droits. La lutte n'est jamais finie, les requins ont gros appétit. Si on veut leur faire boire de la tasse, pratiquons la lutte de classe. Puisqu'ils l'ont déjà commencé, y a pas le choix, faut riposter.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oublié,
on ne la fait pas au gazier.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oublié,
on ne la fait pas au gazier.
La seule chose qu'ils ont oublié,
on est tous avec les gaziers.
On est tous avec les gaziers.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Merci Gilles. Alors, en effet, en France, ça date de 96 avec des directives européennes que cette dérégulation a été mise en œuvre. Et on peut noter notamment qu'entre 2006 et 2020, les tarifs de l'électricité en France ont augmenté de 60%. Parallèlement à cette dérégulation. Alors, l'énergie était une marchandise comme les autres, et bien pour des grands services publics comme l'hôpital ou bien l'éducation nationale, évidemment, cette ressource-là est une ressource clé. C'est aussi, bien sûr, le cas dans le transport, puisque l'énergie, je le rappelle, c'est une évidence, ça nous sert à nous chauffer, à nous éclairer, à faire fonctionner nos appareils électroniques, mais aussi à nous transporter. Alors, je donne la parole à Alex Kikos, donc SNCF, CGT SNCF.
Donc on dit souvent que le transport il touche tous les citoyens et qu'il s'agit plus largement d'un choix de société et d'un choix politique sur une vision à long terme et d'aménagement du territoire. Et Gilles l'a un peu introduit, mais on est dans une période sur la région Hauts-de-France où la région droite Bertrand a voté le principe de l'ouverture à la concurrence, donc sur le même modèle de ce qu'ont pu connaître les salariés chez EDF ou encore La Poste, hein, pour les services publics, les grands services publics, et qu'on est le dernier bastion de services publics à ouvrir au privé. Alors on dit souvent à nos usagers ou aux élus politiques qu'on a en face de nous que c'est pas par plaisir ou bonne conscience que des libéraux décident d'ouvrir le trafic du TER au privé, mais c'est bien qu'il y a des intérêts économiques parce que on sait tous pertinemment qu'à l'avenir on devra changer nos habitudes de consommation d'énergie et plus particulièrement le transport, puisqu'on aura fatalement une baisse des ressources et que la voiture et le camion, ce n'est pas l'avenir. En tout cas, c'est notre analyse à nous, à la CGT Cheminots. Bien évidemment, on travaille au développement du trafic ferroviaire voyageurs et fret, donc en direction aussi bien des citoyens, des usagers, des militants, mais également des différents partis politiques. Sur comment conscientiser les citoyens à préférer le train. Donc on entend beaucoup de choses depuis tout à l'heure dans la salle, il y a eu beaucoup de questions, mais sachez que en ce qui concerne la région Nord-Pas-de-Calais, elle est deuxième région ferroviaire derrière l'Île-de-France par exemple, et qu'elle produit 1250 TER par jour. Donc on a les infrastructures, elles existent. Le savoir-faire, il est là aussi, avec du cheminot qui a été formé et qui a un ADN, une identité vraiment technique du ferroviaire, un peu à l'image de ce qui peut se faire notamment à EDF. Et donc, tout cet héritage, il ne faut surtout pas le laisser aux mains du privé, qui, lui, il ne fera pas forcément plus de trains, et puis surtout pas moins cher. Parce que c'est un peu la ritournelle qu'on entend quand on prend souvent le train, quand il y a des retards, c'est les usagers, souvent par colère, il est temps que cela il passe au privé, parce que ça ira mieux, on aura des trains à l'heure, etc. Ça c'est une idée reçue qu'on casse tout de suite, parce que les voies, ce sera les mêmes. Les pannes d'électricité, ce sera la même panne pour un train de la concurrence qu'un train SNCF. Celui qui veut se suicider, il ne va pas aller regarder si c'est un train SNCF ou un train du privé. Donc fatalement, on aura toujours des trains à l'arrêt ou des gros retards. Je vous passe tous les aléas, les divagations de bestiaux, les accidents des passages à niveau. Celui qui va aller forcer un passage à niveau, il ne va pas aller regarder si c'est un train SNCF ou un train du privé. Bon. Donc ça, c'est tout ce type d'exemple-là. Ça changera pas la face du monde en termes de production de train ou en termes de retard ou du prix du billet. Face à l'augmentation du prix du carburant notamment, et c'est là on est en pleine actualité avec c'est l'Agence européenne de l'énergie qui annonce même une pénurie de carburant cet été, d'après leurs économistes. On verra. Alors est-ce que c'est de l'information qui tend à faire peur aux citoyens, comme le disait Gilles, ou est-ce qu'on est vraiment on arrive à une limite aussi de l'utilisation de ces ressources. Mais par rapport à cette augmentation du prix du carburant, comment on arrive à faire prendre conscience justement à faire préférer le train plus globalement dans la société. Et c'est là aussi je m'adresse aussi à la salle, mais on doit être le relais aussi dans nos syndicats, on doit être le relais dans nos familles, on doit être le relais avec les gens qu'on croise au quotidien il y a quelques années c'était un mode qui était préféré à la voiture, et on a eu cette montée de l'individualisme depuis plusieurs décennies qui a fait que les gens se sont tournés plus sur l'utilisation d'une voiture plutôt que le transport collectif en général. Alors il y a aussi un documentaire qui n'est pas de Gilles mais qui est tout aussi pertinent, ça s'appelle L'homme a mangé la terre, et ça reprend sur le dernier siècle comment nous avons mis par terre tout ce qui avait été mis en place en matière, notamment il y a un passage sur les transports collectifs, on avait énormément de villes qui avaient des trams, on avait l'intermodalité, donc on appelle l'intermodalité tram-train, vélo, métro, avec cette possibilité de se déplacer d'un point à un autre et de pouvoir desservir des bassins d'emploi qui pour certains sont désertifié. Alors je pense il y a le camarade de la Bénois, mais on travaille énormément sur notre revendication, c'est aussi de faire plus de trains pour le bassin de la Bénois par exemple, qui est toujours à 2 heures, pour les plus lointains ils sont à 2 heures de Lille. Donc on a été une région visionnaire lorsqu'on a eu un conseil régional de gauche qui a créé les TERGV. Donc on est la seule région à faire du TVRGV. C'est-à-dire, bah tiens, on avait des TGV qui restaient en arrêt dans des gares, mais lorsqu'ils sont en arrêt, bah, ils consomment quand même de l'électricité. Et puis on a des élus qui se sont dit, bah tiens, pourquoi on n'utiliserait pas ces rames-là pour desservir certaines gares, mais à un prix TER. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée en synthèse, hein, l'idée du TVRGV. Et donc ça dessert le bassin du littoral. Bon bah ça c'est un projet qu'on souhaitait nous développer sur l'Avesnois par exemple. On disait bon tiens, pourquoi on n'utiliserait pas les rames TGV qui arrivent jusque Valenciennes, les Paris-Valenciennes, et pourquoi ces rames-là ne pourraient pas desservir par exemple ce territoire-là, bon, pour permettre aussi de resserrer les liens avec une partie du territoire. Donc au-delà des constats qu'on peut faire, c'est ce qu'on se dit souvent, mais qu'est-il encore possible de faire? Donc par exemple, j'ai entendu le camarade de Seclin, il y a une dizaine d'années, on avait encore le service autotrain à Seclin. Il faut se souvenir de ça,
C'est quoi
le service autotrain? Ça permettait à des usagers de mettre leur voiture sur le train pour pouvoir partir en vacances. Voilà. Donc on avait des outils, on avait des pratiques écologiques, voilà, qui ont été mises à mal et qu'on a fermé. Voilà, on a arrêté ces services. Pourquoi on ne serait pas capable demain de reproposer ce service autotrain? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable? Il me semble qu'on regarde ce clan, on va encore avoir. Il suffit de remettre à neuf les infrastructures, mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable, par exemple, de dire bah, nous, les citoyens de la métropole, nous voulons à nouveau, vu la situation économique avec le prix du carburant, bah, c'est une réponse. C'est une réponse cohérente et qui a toute sa place. Remettons en place l'autotrain sur les métropoles, par exemple. Bon, ça peut être une revendication qu'on peut porter tous ensemble au sein de la CGT. Et comment passe-t-on enfin d'un discours de développement durable qu'on a pu avoir dans les différentes COP, hein, les COP 21, COP 22, etc., à du concret? Donc, ça aussi, c'est des questions peut-être qu'on détaillera après dans les différents points de la suite des débats. Et sur la défense de l'environnement, la défense de l'environnement, elle appartient pas qu'aux écologistes. Et qu'à un moment donné, nous aussi, la CGT, je pense qu'on doit se placer au cœur du débat de l'environnement et être porteur de propositions et pour faire adhérer un maximum de militants et de salariés. Parce que si on laisse le terrain aux autres, je pense que nous aussi, à travers nos métiers, à travers nos entreprises, à travers notre savoir-faire, quel que soit le domaine ou l'activité dans laquelle on est, je pense que la CGT, elle a gagné à se positionner sur la défense de l'environnement. Je rappellerai un seul chiffre, un chiffre que je rappelais quand on faisait les ciné-débats avec Gilles sur le film Changeons d'air. Un train fret de 35 wagons, il peut porter à lui seul le chargement de 55 camions de 32 tonnes. Ça c'est parlant. Et y compris sur le trafic TER, et j'entends souvent aussi les questions portées sur le prix du billet. Si on fait préférer le train et s'il y a une pression sociale qui demain fait savoir qu'elle veut aller, que les gens veulent prendre le train encore plus qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura forcément le rapport de force qui va naître sur la tarification. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour faire préférer le train. C'est pas les petits spots. C'est bien beau. Il y a de la communication. La communication aujourd'hui, c'est un peu comme dans n'importe quelle autre entreprise, puisque la SNCF aujourd'hui, elle fonctionne comme n'importe quel autre groupe du CAC 40. Aujourd'hui, la SNCF, c'est un groupe avec plus de 1200 filiales. Donc elle raisonne, elle communique comme n'importe quelle entreprise du privé. prendre le train, on le sait, ça nécessite l'accès aux gares. Donc l'accès aux gares, c'est mon vélo, voilà, je vais aller mettre mon vélo dans le train, je veux, est-ce qu'on peut pas développer des garages à vélo? Est-ce que, voilà, il y a plein de sujets qu'on peut développer ensemble, et nous on est porteurs de toutes ces orientations-là et revendications, mais il y a plein de choses à faire. La SNCF, la seule réponse qu'elle a amenée, c'est mettre des parkings GAFIA payants. Donc forcément que ça fait, ça va, les gens baissent les bras et puis ils se disent, ben merde, moi je veux bien prendre le train, mais si je laisse ma voiture en gare, ça va me coûter bonbon de la laisser la journée. Mais elle met pas les moyens pour permettre aux citoyens de prendre le train. Et c'est comment on conscientise ça et comment on permet aux citoyens de gagner de nouveaux moyens pour aller dans nos gares et plus largement utiliser les transports en commun. Parce que en ce qui nous concerne, pour nous, c'est l'avenir.
Radio Campus.
Ni gris l'hiver, qu'on stand et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie,
et qu'on se demande si c'est utile, et puis sur nous, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie.
106,6.
حسنة سواتي دوين النوم دوقت تمس حنا ثابية كيف دروم فاروا غاس علت الويداء قلوم أما زلان مذاب يمد ومشوم حسنة سواتي دوين النوم دوقت تمس حنا ثابية كيف دروم فاروا غاس علت الويداء قلوم يا لا 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 يا لا لا يا لا لا Set مات لك سيدات تنوخ ورشوكا غيبغات كارن غات قمو دي الشمدات مات محالة بلتسو دي ربزان ساعات صعصارين بدو عوزينا نتقمات لك سيدات تنوخ ورشوكا غيبغات كارن غات قمو دي الشمدات مات محالة بلتسو دي ربزان ساعات صعصارين بدو يا لا 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 مسات البيت فور طالو فريسيتي يا لا 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 يوغال السرد امور طالو فريسيتي يا لا 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 مسات البيت فور طالو فريسيتي يا لا 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 يوغال السرد امور طالو فريسيتي حريت اللي غير قزنت ناغر كي بغاتي رمزي ذكرن دادما ويطفنا كرسي غيدا في شغبان أما تشدي سقسي غاك في دا غيوغان هيا بحريت اللي غير قزنت ناغر هيا بغاتي رمزي ذكرن دادما ويطفنا كرسي غيدا في شغبان أما تشدي سقسي غاك في دا غيوغان يا لا 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 يا لا لا مسات البيت فور طالو فريسيتي يا لا 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 يا لا لا يوغل السرد امور طالو فريسيتي يا لا 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 يا لا لا مسات البيت فور طالو فريسيتي يا لا 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 يا لا لا يوغل السرد امور طالو فريسيتي البطلي غير زين ديد تسيد الشرقات أحبك يا عزيزين ميل فدان كرد ورسلوني يرقزن نور كنوني لقد أسير مثل الزوزان تامر تناب تبد البطلي غير زين ديد تسيد الشرقات أحبك يا عزيزين ميل فدان كرد ورسلوني يرقزن نور كنوني لقد أسير مثل الزوزان تامر تناب تبد يا لا 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 مسات البيت فور طالو فريسيتي يا لا 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 يا لا لا يوغل السرد امور طالو فريسيتي يا لا 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 لا